Chapitre 19. Le voltigeur des flots. Alors que le soleil pointait à peine à l'horizon, le carrosse noir laqué tiré par 4 chevaux gris s'arrêta à l'entrée du quai et le cocher, un homme élancé aux cheveux bruns vêtu d'une livrée noire et or, sauta de son banc pour ouvrir la portière. Aucun emblème ne décorait celle-ci, bien entendu. Si chaleureux que fussent leurs sourires, les nobles de Théar accordaient leur aide aux Aes Sedai parce qu'ils ne pouvaient pas faire autrement, et ils prenaient toutes les précautions pour que leur nom ou celui de leur maison ne soit pas associé à la Tour Blanche. Sans attendre Nineveh, Elaine descendit du véhicule, puis tira sur les plis de sa cape de voyage d'été en lin bleu. Les rues de l'Assommoir étaient déjà très fréquentées à cette heure, et les ressorts de suspension du carrosse, censés amortir les chocs pour les voyageurs, ne devaient pas être de la première jeunesse. Quand on venait de la pierre, avec son atmosphère étouffante, la brise qui balayait le fleuve Erinin pouvait passer pour rafraîchissante. Bien décidée à montrer que le bref mais rude trajet ne l'avait pas affecté, la fille héritière ne put pourtant pas s'empêcher de se masser le creux des reins avec son poing fermé.
« Au moins, la pluie de cette nuit nous a épargné les colonnes de poussière. »
Une chance, puisque les fenêtres du carrosse n'avaient pas de rideaux. Une lacune qui ne devait rien au hasard, aurait parié Elaine. Au nord et au sud de sa position, d'autres quais saillaient de la berge comme de longs doigts de pierre. La brise charriait une odeur d'étoupe, de chanvre, de poisson, d'épices, d'huile d'olive, de pourri, les eaux stagnantes entre les différentes jetées, et de fruits mûrs. Empilés dans des caisses devant les entrepôts, dans le dos d'Elaine, ces longs fruits verts tirant sur le jaune étaient très appréciés à Théar. Malgré l'heure matinale, des dockers en gilet de cuir, les épaules et les bras nus, s'affairaient déjà, ployant le dos sous d'énormes charges ou poussant des diables lestés de tonneaux ou de caisses. Aucun n'accorda plus d'un regard furtif à la jeune femme, comme si ces malheureux craignaient de commettre on ne savait quel sacrilège quand ils posaient les yeux sur quelqu'un du grand monde. La fille héritière en fut attristée. À Théar, les nobles traitaient très mal le peuple. À dire vrai, ils le maltraitaient. En Andorre, Elaine aurait eu tout son content de sourires aimables et de salutations respectueuses, le tout lancé par des hommes à la tête fièrement levée qui connaissaient aussi bien leur propre valeur que la sienne. La jeune femme en regretta presque d'être obligée de partir. Élevée pour guider et gouverner, quand son temps viendrait, elle brûlait d'envie d'enseigner la dignité à ces braves gens. Mais c'était la mission de Rand, pas la sienne.
« Et s'il ne s'en acquitte pas, je ne lui cacherai pas ma façon de penser. »
Au moins, se rangeant à son avis, il avait commencé cette œuvre indispensable, et il s'en tirait admirablement bien, force était de le reconnaître. Elaine avait hâte de voir où il en serait lorsqu'elle reviendrait.
« Si j'ai une raison de revenir. »
De là où se tenait Elaine, on apercevait une dizaine de bateaux, et il y en avait d'autres de là. Mais un bâtiment arrimé au bout du quai le plus proche attira immédiatement le regard de la fille héritière. Long de quelque 300 pieds et bien plus large que les autres navires, le coursier du peuple de la mer avait fière allure avec ses 4 mâts et son imposante voilure. Ce ne serait pas la première fois qu'Elaine naviguerait, mais elle n'avait jamais eu l'occasion d'embarquer sur un navire si grand, capable d'affronter la haute mer aussi bien que les eaux fluviales. Le nom même du bateau évoquait d'héroïques traversées vers des terres lointaines et des ports mystérieux. Les Atan Nyeré, également appelés le peuple de la mer. Sauf lorsqu'il mettait en scène des aïels, les récits qui se voulaient exotiques mentionnaient obligatoirement les fabuleux navigateurs. Sortant enfin du carrosse, Nineveh ferma le col de sa cape de voyage et marmonna quelques propos peu amènes à l'intention du cocher.
« Secoué comme dans une cage à poules. Battu comme un tapis poussiéreux. Dis-moi, mon brave, comment as-tu fait pour ne rater aucun trou ni aucun dodane entre la forteresse et le port? Voilà qui demande de sacrées compétences. Dommage qu'aucune ne soit utile pour conduire un attelage. »
Le pauvre cocher tendit une main à Nineveh pour l'aider à négocier le marchepied, mais il déclina son offre d'assistance. Elaine sortit de sa bourse 2 fois plus de sous d'argent que prévu.
« Merci de nous avoir conduits ici très vite et en toute sécurité. »
dit-elle en déposant les pièces dans la paume de l'homme.
« Nous vous avons demandé de ne pas traîner et nous avons été servis. L'état des rues n'étant pas de votre ressort, vous vous en êtes très bien tiré dans des conditions difficiles. »
Sans baisser les yeux sur son pourboire, le cocher s'inclina et murmura un « merci madame » qui venait droit du cœur. Une reconnaissance motivée au moins autant par le compliment que par la gratification, aurait juré Elaine. Très souvent, une attention bien choisie faisait autant plaisir, voire davantage, que de l'argent. Cela dit, elle n'avait jamais vu personne cracher sur un petit bonus, bien entendu.
« Veuille la lumière que tu fasses bon voyage, madame. »
conclut l'homme. À l'évidence, ses vœux ne s'adressaient pas à Nineveh. À l'avenir, songea Elaine, l'ancienne sage-dame devrait apprendre à se gagner la loyauté des gens en les traitant avec respect. C'était indispensable. Lorsque le cocher, après avoir débarqué les bagages, fut reparti avec son carrosse, Ninevé maugréa.
Je n'aurais pas dû lui passer un savon, pas vrai? Un oiseau aurait du mal à ne pas être secoué dans ces rues. S'il les remontait dans un carrosse, en tout cas. Mais j'ai eu l'impression d'avoir passé une semaine en selle. Sais-tu un mal au... rein? Ce n'est pas la faute de cet homme.
Dit Elaine, avec un sourire, afin de désamorcer une éventuelle contre-attaque. Ninevé eut un rire sans joie.
J'ai reconnu mes torts, non? Tu ne voudrais pas que je lui coure après pour m'excuser? La jolie petite poignée de pièces que tu lui as donnée suffirait à guérir presque toutes les plaies non mortelles. Elaine, tu devrais apprendre à faire attention avec l'argent. Nous n'avons pas les mêmes ressources que le royaume d'Andorre. Une famille normale vivrait un mois avec les pourboires que tu distribues à des gens qui se contentent de faire leur travail.
Elaine braqua sur son amie un regard indigné. En bonne villageoise, Ninevé pensait qu'elle devait mener une vie misérable, pire que des domestiques, tant qu'il n'y avait pas de raison de faire le contraire. Pour la fille héritière, c'était exactement l'inverse. Il fallait mener grand train tant que la réalité ne vous contraignait pas à resserrer les cordons de la bourse. L'ancienne sage-dame ne broncha pas sous le regard qui forçait pourtant les gardes de la reine à se mettre au garde à vous. Ramassant ses bagages, comme Elaine, elle se tourna vers le quai.
« Sur un bateau, nous serons moins secoués. Si on montait à bord ?»
Alors qu'elle se faufilait entre des dockers, des piles de tonneaux et des chariots débordant de fret, Elaine se décida à faire un peu de prophylaxie.
« Ninevé, d'après ce qu'on m'a dit, le peuple de la mer est connu pour sa susceptibilité, surtout avec les inconnus. Crois-tu que tu pourrais être un peu plus...
un peu plus quoi ?
Diplomate. Tu sais, quelque chose qu'on appelle le tact. »
Elaine fit un pas de côté pour éviter un crachat qui s'écrasa sur le sol. Regardant alentour, elle ne parvint pas à déterminer d'où venait ce projectile. Tête basse, tous les hommes travaillaient d'arrache-pied. Maltraitance des hauts seigneurs ou pas, la jeune femme aurait accablé le coupable de quelques mots acerbes qu'il n'aurait pas été prêt d'oublier.
« Tu sais quand même ce que c'est, le tact ?»«
Bien sûr que oui. »
assura Ninevé en commençant à gravir la rampe d'embarquement au garde-fou de corde du quatre-mâts.
« Tant qu'on ne me chauffe pas trop les oreilles. »
Une fois sur le pont, Elaine eut le sentiment que le navire, tout compte fait, n'était pas si large que ça, considérant sa taille. Sans être une grande experte en navigation, elle eut le sentiment d'être montée sur une esquille géante.
« Pas la lumière. Nous allons être encore plus secoués que dans le carrosse. »
La fille héritière s'intéressa ensuite à l'équipage. Si elle avait entendu maintes histoires au sujet des atas admirés, c'était les premiers qu'elle voyait. Et les récits, en réalité, n'allaient pas vraiment au fond des choses. Bref, le peuple de la mer, comme les aïels, se révélait secret et refermé sur lui-même. Pour trouver plus mystérieux, il fallait sûrement s'aventurer au-delà du désert des aïels. Des terres étranges où les atas admirés, ça, c'était de notoriété publique, achetaient de la soie et de l'ivoire. Évoluant sur le pont les pieds et le torse nus, les marins à la peau et aux cheveux noirs, tous rasés de près, avaient les mains couvertes de tatouages. Marchant avec la nonchalance de gens qui connaissent assez bien leur travail pour l'effectuer en y pensant à peine, ils se concentraient pourtant à fond sur leurs tâches. Chacun de leurs gestes était empreint d'une grâce ondulante, comme s'ils sentaient les mouvements de la mer alors que leur navire ne bougeait pas. Une chaîne d'or ou d'argent autour du cou, presque tous portaient des boucles d'oreilles. Certains en arboraient même trois par lobe avec des pierres polies pour ornement. En y regardant bien, Elaine vit qu'il y avait des femmes parmi l'équipage. Autant que d'hommes, en réalité. Tirant sur les cordages ou les enroulant, elles portaient le même pantalon bouffant que leurs collègues, d'étranges vêtements en tissu sombre ciré, tenus par des ceintures de lin de toutes les couleurs et ouverts aux chevilles. Mais les femmes cachaient leurs poitrines sous des chemisiers de couleurs vives, majoritairement bleues, verts et rouges. Et elles étaient lestées d'autant de chaînes et de boucles d'oreilles que les mâles. Un peu choquée, Elaine vit que quelques-unes portaient même un anneau dans le nez. Si incroyable que ça puisse paraître, ces femmes étaient encore plus gracieuses que leurs compagnons. En les voyant, Elaine se remémora des histoires qu'elle avait entendues, enfant, en ouvrant grande les oreilles à des moments où elle n'aurait pas dû écouter. Dans ces récits, les femmes du peuple de la mer étaient décrites comme l'incarnation de la beauté féminine, des tentatrices nées, poursuivies par tous les hommes. Objectivement, les femmes présentes sur le quatre-mâts n'étaient pas plus jolies que celles des autres coins du monde. Mais tout changeait quand on les voyait bouger. Deux d'entre elles, qui se tenaient près du mât de misaine, sur le pont surélevé, n'étaient à l'évidence pas des membres d'équipage ordinaire. Pieds nus comme tout le monde, elles portaient des habits brodés, bleus pour l'une et verts pour l'autre. La plus âgée, en vert, avait quatre boucles d'oreilles à chaque oreille, et une neuvième dans la narine gauche. En plus de ses bijoux qui brillaient comme de petits soleils, une chaînette lestée d'une série de médaillons d'or reliait son anneau nasal à une des boucles. Autour de son cou, une de ses multiples chaînes soutenait un pendentif d'or en forme d'écrin percé qui évoquait un ouvrage en dentelle, si la dentelle avait pu être en métal. De temps en temps, elle s'en emparait et le portait à son nez. L'autre femme, plus grande, portait seulement 6 boucles et sa chaînette était lestée de moins de médaillons. Comme sa compagne, elle reniflait régulièrement un petit écrin d'or finement ouvragé. Exotique, vraiment. Cela dit, les anneaux dans le nez, très peu pour Elaine. Et cette chaînette bizarre. Depuis qu'elle regardait la poupe, Elaine éprouvait un étrange malaise, mais sans pouvoir le définir. Qu'est-ce qui clochait ? Soudain, elle vit. Le gouvernail n'était pas muni d'une barre. Derrière les deux femmes, il y avait bien une roue à rayons pour l'heure attachée afin qu'elle ne tourne pas, mais aucune barre.
Comment navigue-t-il ?
Même les coquilles de noix qui allaient et venaient sur le fleuve avaient une barre, comme tous les autres navires qui mouillaient en ce moment au port. Décidément, le peuple de la mer était des plus mystérieux.
Souviens-toi de ce que t'as dit, Moiraine.
Souffla Elaine à Nineveh, tandis qu'elles approchaient du mât de misaine. À vrai dire, ce n'était pas grand-chose, car les Aes Sedai elles-mêmes n'en savaient pas très long sur les Atan Miré. Moiraine avait au moins insisté sur la courtoisie, un élément essentiel dès qu'on s'adressait à un représentant de ce peuple.
Et souviens-toi aussi du tact. Je n'oublierai pas.
Marmonna Nineveh, agacée.
Je sais être d'une émouvante délicatesse.
Elaine en accepta l'augure. Les deux femmes attendaient leur visiteuse en haut de l'escalier. Non, de l'échelle, se souvint Elaine, même quand il y avait des marches et pas des barreaux. Sur les bateaux, les choses les plus banales portaient des noms différents. Comme le sol, par exemple, qui devenait le pont. Pourtant, par terre, ça restait par terre. Dans des écuries, dans une auberge ou dans un palais. Alors pourquoi tant d'exceptions liées à la marine ? Un nuage de parfum entourait les deux femmes, une odeur musquée qui montait des écrins d'or ajourés. Sur leurs mains, les tatouages représentaient des étoiles, des oiseaux de mer et des motifs géométriques qui évoquaient des vagues. L'ancienne sage-dame inclina la tête.
« Je suis Nineveh Almehara, Aes Sedai de la Javert. Je cherche la maîtresse des voiles afin de solliciter un passage sur votre navire. Voici mon amie, Elaine Trakand, elle aussi Aes Sedai de la Javert. Que la lumière brille sur vous et sur votre vaisseau, et qu'elle vous envoie le meilleur vent pour gonfler vos voiles. »
C'était en gros le genre de discours que Moiraine leur avait conseillé de tenir. Sans la référence à la Javert, même si elle semblait plus amusée qu'indignée par ce choix, mais tout le reste collait. La doyenne des deux femmes, ses cheveux noirs déjà piquetés de gris, inclina la tête en réponse à l'approche protocolaire de Nineveh. Cela dit, elle étudia du coin de l'œil ses deux passagères potentielles, notant au passage la bague au serpent qu'elles portaient toutes les deux à la main droite.
« Je suis Koin Din Jubai, vent furieux, maîtresse des voiles du voltigeur des flots. Je vous présente Jorin Din Jubai, aile blanche, ma sœur de sang et régente des vents du voltigeur des flots. Si la lumière le veut, je pourrai vous accepter à bord. Que la lumière vous éclaire et veille sur vous jusqu'à la fin de votre voyage. »
Elaine fut vraiment surprise qu'il s'agisse de deux sœurs. En fait, la ressemblance était visible, même si Jorin paraissait beaucoup plus jeune. Et bien plus accommodante, il fallait l'avouer. Aucune des deux femmes n'était franchement ouverte, mais la régente des vents lui rappelait Avienda. Une sensation absurde, bien sûr, et pourtant. Les deux Atan Miré n'étaient pas plus grandes qu'elles, et leur couleur de peau était bien différente de celle du Nayel. En matière d'armes, elles portaient seulement à la ceinture un coutelas, qui faisait somme toute très féminin malgré les gravures et les incrustations en or du manche. Contre toute logique, la fille héritière continuait à trouver des points communs entre Jorin et Avienda.
« Pouvons-nous parler, maîtresse des voiles ?»
demanda Nineveh avec tout le tact dont elle était capable.
« Évoquer la navigation, les ports, et le présent équivalent à notre passage. »
Selon Moiraine, le peuple de la mer ne faisait jamais payer ses passagers. C'était un service gratuit qu'il échangeait contre un cadeau de la même valeur, un pur hasard bien entendu. Coin tourna la tête vers la pierre et contempla un moment l'étendard qui flottait au sommet.
« Si ça ne vous dérange pas, Aes Sedai, nous parlerons dans ma cabine. »
Coin désigna une écoutille ouverte derrière l'étrange gouvernail.
« Bienvenue sur mon bateau, et que la grâce de la lumière vous accompagne jusqu'à ce que vous quittiez son pont. »
Après avoir descendu une étroite échelle, un banal escalier en réalité, Elaine découvrit une pièce plus grande qu'elle l'aurait crue d'après son expérience de plus petit navire. Des hublots ouvraient sur la poupe, et des lampes de marine disposées le long des cloisons fournissaient une agréable lumière. À part quelques coffres laqués de tailles différentes, tout le mobilier semblait avoir été conçu pour s'intégrer à la cabine. Placée sous les hublots, la couchette était d'une bonne largeur, et une petite table flanquée de deux fauteuils trônait au milieu de la cabine. Tout était rangé à sa place, à part quelques cartes enroulées oubliées sur la table. Sur les étagères, des figurines d'ivoire représentaient une série d'animaux exotiques, et un râtelier exposait des épées et des sabres, dont deux ou trois modèles qu'Hélène n'avait jamais vus de sa vie. Un étrange gong carré en fonte pendait à une poutre au-dessus du lit. À côté des hublots, comme à la place d'honneur, un casque reposait sur une tête de bois stylisée. Évoquant la tête d'un insecte monstrueux, ce casque laqué, rouge et vert, était orné d'une fine plume blanche de chaque côté, mais l'une des deux était brisée.
« Un casque océanchanien !»
s'exclama Hélène sans réfléchir. Ninevé la foudroya du regard, une remontrance méritée. L'ancienne sage-dame étant l'aînée, les deux femmes étaient convenues qu'elle serait leur porte-parole et prendrait toutes les initiatives. Coin et Jorin se regardèrent, le visage de marbre.
« Vous connaissez les Seanchaniens ?»
demanda la maîtresse des voiles.
« Une question stupide, j'en ai peur. Bien sûr que les Aes Sedai savent ce genre de choses. Si loin à l'est on entend bien des histoires, les moins mensongères étant à peine des demi-vérités. »
Consciente qu'elle aurait dû en rester là, Elaine céda pourtant à la curiosité.
« Comment avez-vous eu ce casque ? Si je peux me permettre de poser la question. »
« Le voltigeur a croisé un bâtiment Seanchanien l'an dernier, »
répondit Coin.
« Ces gens convoitaient mon bateau, et je n'étais pas disposé à le leur céder. Enfin, vous savez ce que c'est. Je garde le casque en souvenir, et la mer a gardé les Seanchaniens entre ses bras. Que la lumière ait pitié de tous les navigateurs. Quant à moi, je n'approcherai plus jamais d'un bateau aux vagues striées. Vous avez eu de la chance. »
dit Ninevé.
Les Seanchaniens capturent des femmes capables de canaliser, et ils les utilisent comme des armes. S'il y en avait eu une sur ce navire, vous auriez regretté de l'avoir croisée, croyez-moi. »
Hélène fit une grimace à sa compagne, même si le mal était fait. Les deux Atan Miré étaient-elles vexées ? Elles n'en montraient rien, mais il ne fallait pas s'y fier, car le peuple de la mer semblait être enclin à cacher ses sentiments, surtout face à des étrangers.
« Parlons de votre passage, »
proposa Coin.
Si la lumière le veut, notre cap correspondra à votre destination. Sous la lumière, tout est possible, n'est-ce pas ? Mais asseyons-nous. »
Les fauteuils et la table étant boulonnés au sol, enfin au pont, les bras des sièges s'écartaient pour qu'on puisse s'asseoir et revenaient en place après. Cette configuration confirma les plus sinistres prédictions d'Hélène au sujet du roulis. Ayant l'estomac bien accroché, elle ne s'en inquiéta pas, mais Ninevé avait déjà le mal de mer sur un banal navire fluvial. Alors sur l'océan, s'il y avait une tempête... Ninevé malade et de mauvaise humeur parce qu'on malmenait son estomac, on pouvait redouter pire comme expérience, mais il fallait beaucoup d'imagination. Les deux passagères furent invitées à s'asseoir d'un côté de la table, les Atan Miré s'installant à chaque bout. Une étrange configuration au premier abord. Puis Elaine s'avisa que Ninevé et elle regarderaient d'instinct celle qui parlait, permettant à l'autre de les observer en toute tranquillité.
« Une tactique qu'elles réservent à tous les passagers ? Ou qu'elles utilisent parce qu'elles nous prennent pour des Aes Sedai ?»
En tout cas, ça prouvait que les rapports avec les Atan Miré n'auraient rien de simple. Avec un peu de chance, Ninevé s'en serait aperçu aussi. Alors que Coin et Jorin n'avaient pourtant donné aucun ordre, une jeune femme arborant une seule boucle par oreille entra dans la cabine avec un plateau lesté d'une bouilloire à poignée de fonte et de grosses chopes. Pas en porcelaine du peuple de la mer comme on aurait été en droit de s'y attendre, mais en vulgaire céramique. Sans doute parce que ce matériau se révélait moins fragile dans les tempêtes, devina la fille héritière. Mais la vaisselle ne retint pas longtemps son attention. Comme les marins qui s'affairaient sur le pont, la belle serveuse ne portait pas de chemise. Si Elaine parvint à cacher sa surprise, une fois passé le premier choc, Ninevé ne put retenir un petit cri. Quand la jeune femme eut servi quatre chopes d'une infusion très sombre, la maîtresse des voiles lâcha froidement.
« Avons-nous levé l'ancre sans que je m'en aperçoive, Dorel ? N'y a-t-il aucune terre en vue ?»
La jeune Atan Miré se décomposa.
« Il y en a une, maîtresse. »
dit-elle d'un ton piteux.
« Eh bien, tant que ce sera le cas, et aussi longtemps qu'il n'y en aura pas une durant une journée entière, tu seras affecté au nettoyage de la cale, une tâche qu'on accomplit bien mieux sans vêtements. Et maintenant, retire-toi. »«
Bien, maîtresse des voiles. »
souffla la jeune femme, de plus en plus contrite. Elle s'éloigna en défaisant déjà sa ceinture de lin rouge et sortit sans demander son reste.
« Buvez cette infusion, afin que nous puissions parler en paix. »
dit la maîtresse des voiles. Elle sirota une gorgée du breuvage, Ninevé et Hélène l'imitant.
« Je vous implore de pardonner Dorel, Aes Sedai. C'est son premier voyage, à part des allers et retours entre nos îles. Les jeunes gens oublient souvent les traditions en vigueur sur le continent. Si vous le souhaitez, je la punirai plus sévèrement.
C'est inutile,
affirma Elaine en reposant sa tasse. Trop chaude et non sucrée, l'infusion était encore plus amère et encore plus forte qu'elle en avait l'air.
Vraiment, nous ne sommes pas offensés. Les cultures et les traditions ne se ressemblent pas, et c'est bien normal. À condition d'éviter au maximum les traditions de ce genre. Et si ces gens ne portaient plus aucun vêtement une fois en haute mer? Par la lumière, c'est bien possible. Seul un imbécile s'offense des traditions de ses voisins.
Ninevé coula à sa compagne un regard critique, à la façon discrète d'une Aes Sedai, puis elle but une bonne moitié de sa chope.
« Oublions tout ça, »
dit-elle, sans qu'il soit possible de savoir si elle s'adressait à Elaine ou aux deux Atan Miré.
« Dans ce cas, abordons la question du passage, si vous le voulez bien. Où désirez-vous aller ?»« À Tanchico, »
répondit Ninevé du tac au tac. Déjà une entorse à sa toute nouvelle diplomatie.
« Je sais que vous ne comptiez pas y faire escale, mais nous devons y être le plus vite possible. Seul un quatre-mâts peut répondre à nos exigences, à condition de traverser d'une seule traite. En compensation, voici un petit cadeau. »
Ninevé sortit de sa bourse une feuille de parchemin qu'elle déplia avant de la poser sur la table, puis de la pousser vers la maîtresse des voiles. Moiraine leur avait donné deux lettres de crédit. Chacune autorisait le porteur à retirer 3000 couronnes d'or au maximum auprès des banques et des prêteurs sur gages de diverses cités, même s'il était peu probable que ces gens sachent qu'ils détenaient de l'argent appartenant à la Tour Blanche. En découvrant le montant, Elaine avait ouvert de grands yeux. Ninevé poussant carrément un petit cri. Mais Moiraine avait affirmé qu'il faudrait peut-être ça pour détourner la maîtresse des voiles du cap qu'elle avait prévu de suivre. Coyne tira la lettre de crédit à elle et la parcourut du regard.
« Une somme rondelette pour un cadeau de passage, »
dit-elle.
« Même si vous me demandez de modifier mon plan de navigation. Mais voilà de plus en plus surprise. Vous savez que nous accueillons rarement les Aes Sedai sur nos bateaux. Très rarement, même. Depuis le premier jour où un de nos bateaux appareilla, parmi tous ceux qui demandent un passage, seuls les Aes Sedai risquent de se le voir refuser. Le sachant pertinemment, elles évitent de demander. »
Coyne regardait sa chope, pas ses interlocutrices. Jetant un coup d'œil à l'autre à Atan Miré, Elaine vit qu'elle étudiait attentivement ses mains et celles de Ninevé. Non, leurs bagues en réalité. Moiraine ne les avait pas avertis que ce serait si difficile. Après avoir déclaré que le quatre-mâts était le navire le plus rapide présent au port, elle les avait encouragés à y embarquer. Puis elle leur avait remis les lettres de crédit, probablement suffisantes pour faire l'acquisition d'une flottille de quatre-mâts. Enfin, de plusieurs bateaux au minimum.
Savait-elle qu'il faudrait un sacré pot de vin pour convaincre ces femmes?
Mais pourquoi garder le secret dans ce cas? Probablement parce que Moiraine adorait ça. Même quand ça faisait perdre leur temps aux autres.
Vous comptez repousser notre demande?
Lança Ninevé, toute diplomatie jetée aux orties.
Si vous n'acceptez pas les Aes Sedai, pourquoi nous avoir fait descendre ici? Nous aurions pu en finir là-haut.
La maîtresse des voiles dégagea un des bras de son siège, se leva, et alla se camper devant un hublot. Alors qu'elle contemplait la pierre de Théar, la lumière du levant fit briller ses boucles d'oreilles et les médaillons accrochés à sa chaînette.
Il peut canaliser le pouvoir, ai-je entendu dire. Et il brandit l'épée qui ne peut pas être touchée. Parce qu'il les a appelés, les Aiels sont passés de l'autre côté du mur du dragon. J'en ai vu dans les rues. Et on raconte qu'il grouille dans la forteresse. La pierre est tombée, et la guerre fait rage entre les nations du continent. Ceux qui dirigeaient jadis sont revenus et ont été repoussés une première fois. La prophétie s'est réalisée.
Ninevé parut aussi désorientée qu'Elaine par ce changement de sujet.
« Les prophéties du dragon !»
dit enfin la fille héritière.
« Oui, elles se sont réalisées. Il est bien le dragon réincarné, maîtresse des voiles. Accessoirement, c'est aussi un fichu bonhomme qui cache ses sentiments. » Assez bien pour que je ne puisse pas les trouver.
Aes Sedai, je ne parle pas des prophéties du dragon, mais de la prophétie de Jendai, celle qui parle du Koramor. Pas l'homme que vous attendez et redoutez, mais celui que nous cherchons, le héros d'un nouvel âge. Lors de la dislocation du monde, tandis que le sol s'ouvrait et que les montagnes s'écroulaient, nos ancêtres se sont réfugiés en mer. Si on en croit les récits, ils ne connaissaient rien à l'art de naviguer, mais ils survécurent par la grâce de la lumière. Ils ne revinrent pas sur le continent avant la fin de la tempête. Et à ce moment-là, ils constatèrent que bien des choses avaient changé. Le monde entier dérivait au fil de l'eau et du vent. Les années qui suivirent, la prophétie de Jendai nous ordonna de sillonner les eaux jusqu'au retour du Koramor et de le servir lorsqu'il reviendrait. Nous sommes liés à la mer, et dans nos veines, l'eau salée a depuis longtemps remplacé le sang.
Le plus souvent, quand nous posons un pied sur la terre ferme, c'est pour attendre un nouveau bateau, puis repartir sans tarder. Des hommes durs comme l'acier éclatent en sanglots lorsqu'ils doivent accomplir leur devoir à terre. Et les femmes enceintes s'arrangent pour embarquer, même sur un canot si rien de mieux ne se présente, parce que nos enfants doivent naître sur l'eau. Comme ils devront un jour y mourir, leur corps étant confié à la mer. La prophétie s'est réalisée. Cet homme est le Koramor. En le servant, les Aes Sedai en apportent la preuve irréfutable. Car il est dit dans la prophétie, « La tour blanche sera brisée en son nom, et les Aes Sedai s'agenouilleront pour lui laver les pieds et les sécher avec leurs cheveux. »«
Pour me voir laver les pieds d'un homme ?»
lâcha Nineveh.
« Il faudra attendre longtemps. Quel rapport avec notre passage ? Allez-vous nous accepter ou non ?»
Elaine redouta le pire, mais Coyne se contenta de répliquer sur le même ton vif.
« Pourquoi voulez-vous aller à Tanchico ? C'est un port peu accueillant désormais. J'y suis passé l'hiver dernier, et le voltigeur a été pris d'assaut par des citadins qui voulaient fuir absolument n'importe où. La destination les indifférait, pourvu qu'ils puissent quitter Tanchico. Je doute que les choses se soient arrangées depuis.
Vous faites toujours subir un interrogatoire en règle à vos passagers ?»
s'étonna Nineveh.
« Je vous ai proposé un cadeau suffisant pour vous acheter un village. Que dis-je ? Deux villages. S'il vous faut davantage, dites votre prix et n'en parlons plus. »
« Ce n'est pas un prix, »
corrigea Elaine.
« Mais un cadeau. »
Coyne avait-elle été offensée ? Si c'était le cas, elle ne le montra pas.
« Pourquoi ce voyage ? Pourquoi ce voyage ? »
insista-t-elle. Nineveh saisit sa natte et la serra très fort, mais Elaine lui posa une main sur le bras. Avant cette rencontre, elles avaient prévu de ne pas tout dire, mais elles venaient d'en apprendre assez pour modifier leur plan. Dans la vie, il y avait une heure pour le secret et une heure pour la vérité.
« Nous poursuivons des membres de l'âge à noir, maîtresse des voiles, et nous pensons que certaines d'entre elles sont à Tanchico. »
La fille héritière ne faiblit pas sous le regard furibard de Nineveh.
« Si nous ne les trouvons pas, elles risquent de nuire au dragon réincarné, le Koramor.
Que la lumière veille sur nous jusqu'au quai !»
s'écria la régente des vents. C'était la première fois qu'elle parlait, et Elaine ne cacha pas sa surprise. Même si elle ne regardait personne en particulier, Jorin s'adressait de toute évidence à sa sœur.
« Nous pouvons les accepter, et il le faut !»
Coyne acquiesça. Elaine et Nineveh échangèrent des regards interloqués. Pourquoi était-ce la régente des vents qui décidait ? Coyne était la capitaine après tout. Au moins, le passage était acquis.
« Mais à quel prix ?»
se demanda Elaine.
« Contre quel cadeau ?»
Si Nineveh avait pu s'abstenir de révéler qu'elle n'était pas limitée par la lettre de crédit.
« Et c'est elle qui m'accuse de jeter l'or par les fenêtres !»
La porte s'ouvrit pour laisser passer un homme aux cheveux gris très larges d'épaules. Vêtu d'un pantalon bouffant de soie verte tenu par une ceinture assortie, il feuilletait des documents. Quatre boucles d'or à chaque oreille, il portait trois chaînes autour du cou, dont une munie d'un écrin à parfum. La balafre qui zébrait une de ses joues et les deux couteaux à la main curvée glissés à sa ceinture lui donnaient l'air dangereux. Une étrange armature en fil de fer, nouée derrière son crâne, maintenait devant ses yeux deux grosses lentilles transparentes. Sur leurs îles, les Atan Miré fabriquaient les meilleures longues-vues et les meilleures lentilles d'ignition au monde, bien sûr. Mais Elaine n'avait jamais rien vu qui ressemblât au bizarre équipement. Scrutant un document à travers les lentilles, l'homme prit la parole sans lever la tête.
« Coyne, cet idiot veut échanger 500 pots de renards des neiges du Candor contre les trois petits tonneaux de tabac de Deux-Rivières que j'ai achetés à Iboudar. »
Levant les yeux, le type sursauta.
« Oh, pardonne-moi, mon épouse. J'ignorais que tu avais des invités. » Que la lumière vous éclaire toutes.
Mon époux, à midi je descendrai le fleuve, et à la tombée de la nuit je rejoindrai l'océan.
Suis-je toujours le garant du fret, mon épouse ? Ou ai-je perdu ma charge sans m'en apercevoir ?
Tu es le garant du fret, mon époux. Mais nous devons cesser de commercer et nous préparer à lever l'ancre. Cap sur Tanchico.
Tanchico ?
L'homme froissa les documents et produisit un effort visible pour ne pas exploser.
Mon épouse, non ! Tu m'as dit que nous irions d'abord à Mayenne afin de voguer vers Chara. J'ai signé des contrats avec cet itinéraire en tête. Chara, maîtresse des voiles, pas le Tarabone. Ce que nous avons dans nos cales ne vaudra pas grand-chose à Tanchico. Et peut-être rien du tout. Puis-je savoir pourquoi tu sabotes mon travail, appauvrissant le voltigeur ?
Coyne hésita, mais quand elle répondit, ce fut sur le même ton très formel.
Je suis la maîtresse des voiles, mon époux. Le voltigeur apparaît quand j'en ai décidé ainsi. Et vers la destination que je choisis. Tu n'as pas besoin d'en savoir plus pour le moment.
Oui, maîtresse des voiles, si tu vois les choses ainsi.
L'homme se posa une main sur le cœur. Elaine crut voir Coin tressaillir, puis il sortit, le dos raide comme un des mâts du navire.
« Il va falloir que je me réconcilie avec lui. »
murmura la capitaine en regardant la porte.
« En général, c'est très agréable. Mais là, il m'a salué comme s'il était un mousse, ma sœur. Nous sommes désolés de vous attirer des ennuis, maîtresse des voiles. »
dit Elaine.
« Et nous regrettons d'avoir assisté à cet incident. Si nous avons été une source d'embarras, veuillez avoir la bonté de nous pardonner. »«
Embarras ? Aïe, Sedai, je suis la maîtresse des voiles. » « Quant à Thoram, je doute que votre présence l'ait gêné, et si c'est le cas, je ne m'en excuserai pas vis-à-vis de lui. Le commerce est son domaine, c'est vrai, mais je commande ce navire. Je vais devoir me réconcilier avec lui, et ça ne sera pas facile car je ne peux pas tout lui dire, parce qu'il a raison sur le principe, et que je n'ai pas eu l'esprit assez vif pour me justifier un peu plus sérieusement que s'il était un vulgaire mousse. La balafre sur sa joue, il l'a récoltée en chassant les Séanchaniens du pont de mon navire. Il a glané d'autres cicatrices en défendant le voltigeur, et grâce à ses compétences, je n'ai qu'à tendre la main pour qu'on y dépose des pièces d'or. Si je vais devoir me réconcilier avec lui, c'est à cause des choses que je ne peux pas lui dire, parce qu'il mériterait de les savoir. Je ne comprends pas.
Avoua Nineveh.
Sur la Janoire.
L'ancienne sage-dame jeta à Elaine un regard qui promettait une conversation tendue dès qu'elle serait seule. La fille héritière ne s'en émut pas, car elle ne manquait pas non plus de choses à dire sur le sens profond du mot « tact ».
Sur la Janoire.
Reprit Nineveh.
Nous vous demandons en effet de garder le silence. Mais 3000 couronnes sont une raison suffisante pour conduire deux passagères à Tanchico.
Aïe Sedai, je dois garder le secret. Sur les motifs de votre voyage, mais aussi sur votre identité. Beaucoup de membres de mon équipage pensent que les Aïe Sedai portent malheur. S'ils apprennent que nous transportons vers Tanchico des sœurs qui traquent des renégates au service du père des mensonges. Quand nous étions sur le pont, la lumière a voulu que personne ne soit assez près pour nous entendre. « Serez-vous vexé si je vous demande de rester le plus souvent possible dans votre cabine pendant le voyage ? Et de ne pas porter votre bague quand vous montez sur le pont ?»
En guise de réponse, Nineveh retira sa bague et la rangea dans sa bourse. Elaine l'imita avec un peu moins de spontanéité, car elle aimait bien que les gens voient ce bijou à sa main. Ne se fiant toujours pas à Nineveh, dès qu'il était question de diplomatie, elle prit la parole avant celle-ci.
« Maîtresse des voiles, nous vous avons offert un cadeau en échange de notre passage. » S'il vous convient, tant mieux. Dans le cas contraire, puis-je demander ce qu'il vous faudrait ?
Coin revint près de la table et baissa les yeux sur la lettre de crédit.
« Je fais cela pour le Coramor, »
dit-elle en poussant le document vers Nineveh.
« Si la lumière le veut bien, je vous déposerai là où vous désirez aller. Qu'il en soit ainsi. »
Elle porta à ses lèvres les doigts de sa main droite.
« Marché conclu, au nom de la lumière. »«
Ma sœur, »
gémit Jorin.
A-t-on déjà entendu parler d'un gérant du fret qui se mutine contre sa maîtresse des voiles ?
Coin foudroya sa sœur du regard.
Je paierai de ma poche le cadeau de passage. Et si Thoram en avant un jour, ma sœur, je t'enverrai nettoyer la cale avec Dorel. Oui, servir de lest.
Jorin éclata de rire, confirmant que les deux Atan et Re étaient sortis de leur mode strictement protocolaire.
Si tu fais ça, tu arriveras à Chachin, ma sœur, ou à Kemlin.
Car sans moi, comment trouverais-tu ton chemin ?
Coin se tourna vers ses passagères, l'air contrite.
Selon les règles, Aes Sedai, et puisque vous servez le Coramor, je devrais vous traiter comme je traiterais la maîtresse des voiles et la régente des vents d'un vaisseau ami. Nous devrions prendre un bain ensemble, boire du vin adouci au miel et nous raconter des histoires qui nous feraient rire et pleurer. Mais je dois préparer mon navire au départ.
Le voltigeur des flots tangua avec l'enthousiasme que laissait supposer son nom et rebondit contre le quai. Elaine fut secouée dans son fauteuil. Et se demanda si c'était vraiment préférable à se retrouver étalé sur le pont. Quand le calme fut revenu, ou presque, Coin se releva et courut vers l'échelle, Jorin sur les talons. Elaine entendit la maîtresse des voiles ordonner qu'on inspecte la coque, en quête de dégâts.